Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers des témoignages sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette saison 2. N'oubliez pas que si vous aimez Nude, le meilleur moyen de me remercier est d'en parler autour de vous et de me mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute. Vous pouvez le faire sur Apple Podcasts, mais aussi sur l'appli Castbox et Podcast Addict. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire extraordinaire. Angélique est une youtubeuse à 1 million d'abonnés. Sa chaîne cumule un demi-milliard de vues. Mais avant d'en arriver là, elle a eu plusieurs vies. De conseillère conjugale à animatrice d'un improbable jeu télé, en passant par l'entrepreneuse qui connaîtra un flop monumental. Il faut que je vous dise qu'Angélique est une amie, on s'est connus à la fac. Pour moi, son histoire ressemble à un film. Elle a su saisir les coups de chance, les rencontres et les signes du destin, et surtout se relever de ses échecs et recommencer obstinément jusqu'à ce que le succès finisse par arriver. J'avais envie de vous partager son histoire ultra motivante. Quand je lui en ai parlé il y a quelques mois, elle m'a répondu « Ça tombe bien, je m'apprête à sortir mon autobiographie chez Albin Michel. Excusez du peu. » Évidemment, j'ai été émue en lisant son livre que j'ai dévoré. Pour Nude, Angélique revient sur son parcours hors norme. Comment trouver ce qui nous anime profondément? De la petite fille solitaire à la star du web. Alors qu'un enfant sur trois rêverait d'être youtubeur, elle nous dévoile aussi les écueils de cette vie qui fascine et ceux qui se cachent derrière les paillettes.
J'étais une petite fille plutôt dynamique, un peu garçon manqué, qui courait partout, qui aimait la vie. Mais complètement dans la lune, je ne comprenais pas à quoi servait l'école. Je n'aimais pas forcément l'école, à part jouer avec les copines, écouter et raconter des potins. Et en fait, voilà, j'aimais aller à l'école pour m'amuser avec les copines, mais alors je ne voyais aucun intérêt autre que cela. Et heureusement, en CM2, donc quand j'ai eu 10 ans, j'ai fait la rencontre d'un professeur des écoles qui a joué un grand rôle pour moi parce qu'il m'a donné le déclic, en fait. Il m'a fait prendre confiance en moi, prendre aussi conscience que j'aimais les mots, que j'aimais écrire. Il était lui-même écrivain. Il nous faisait imaginer des histoires, les continuer. Il nous demandait de faire le maximum de ratures. Il nous demandait de gribouiller, il fallait que notre feuille soit sale. On faisait la queue à son bureau pour lui montrer un peu voilà, nos histoires, ce qu'on avait pu pondre. Et à chaque fois, c'est pas assez sale. Retourne à ton bureau et fais-moi quelque chose vraiment brouillon. Alors pour moi, c'était parfait parce que j'étais une élève brouillon. Je raturais tout, c'était sale, j'écrivais mal. En fait, il a développé en moi ma créativité et mon imagination aussi, puisque j'en avais, et il en a fait une qualité. Alors qu'avant, on me disait que c'était plutôt un défaut parce que j'étais dans la lune. À la maison, j'étais issue d'une famille recomposée. Ma maman avait déjà eu une fille avant de m'avoir, et mon papa avait eu trois garçons. Et du coup, moi, j'ai été élevée comme une enfant unique parce qu'il ne venait qu'un week-end sur deux. Ma maman a très peu vu ma sœur pendant un temps. J'ai rencontré ma sœur, j'avais 4 ans. Et donc, moi, j'ai souffert de cette solitude et je me suis ennuyée. Et pour moi, ce fut une chance. Ce fut une chance parce que bah, quand on s'ennuie, on a le temps, en fait, de se découvrir, d'essayer de trouver des solutions pour briser l'ennui. Donc, moi, j'écrivais. J'avais 7-8 ans, que je savais à peine écrire, je faisais plein de fautes d'orthographe, ça voulait absolument rien dire, mais moi j'écrivais mes histoires, quoi.
Est-ce que quand t'étais petite, t'avais envie d'être célèbre ?
Pas du tout. Alors, ma maman rêvait que je sois célèbre, elle rêvait elle-même d'être célèbre. Elle était comédienne et en fait, elle n'a jamais vraiment percé et elle aurait aimé projeter ça sur moi. Ma maman m'avait inscrite à pas mal de castings, elle m'a inscrite au théâtre, j'ai assisté à pas mal de ces tournages. Moi, j'étais figurante sur ces tournages-là. Mais moi, je n'ai jamais voulu être célèbre. C'est pas quelque chose qui me motivait. Moi, ce que je voulais, c'est m'amuser, m'éclater, être heureuse, en fait. Mais en vrai, j'ai hérité de sa créativité, de toutes ses qualités qu'elle avait, hein, c'est-à-dire pétillante, dynamique, hyper sociable. Et je pense que j'ai hérité de tout ça, de son imagination, de son goût pour les histoires, pour le théâtre. J'ai hérité de ça. Ma maman, quand ils se sont séparés avec mon papa, elle a eu du mal à s'occuper de moi. Elle sortait beaucoup, elle était peu présente et je lui en voulais. Et du coup, mon papa s'est battu pour récupérer ma garde. Et de ce combat, en fait, qu'il a gagné, hein, puisqu'il l'a récupéré quand j'avais 13 ans, ben, c'est comme si je lui devais quelque chose et qu'il m'avait sauvée, c'était mon sauveur. Donc c'était comme si j'avais une dette envers lui, quoi. Et quand je suis partie vivre chez mon papa, j'ai arrêté tous les castings, toute cette créativité, je l'ai rangée dans un coin de ma tête, ou de mon corps, ou de mon cœur, je ne sais pas, pour, je pense, fermer la porte à ma mère, quoi, pour ressembler à mon père, pour que mon père soit fier de moi, etc.
Angélique met de côté sa fibre artistique pour un bac scientifique, puis une première année de médecine.
Qui ne me va pas du tout en tant qu'hypochondriaque. Hein. Donc c'était vraiment, les gens autour de moi avaient des grands yeux, me regardaient, me disaient, mais Angélique en médecine, quoi, elle va nous faire une crise cardiaque. J'ai claqué la porte de l'amphithéâtre, parce qu'au bout de 3 mois, pour moi, c'était trop, hein, de parler de mort, de taux de mortalité, etc., de maladie. Quand j'arrête médecine, je déçois beaucoup mon papa. Je sens qu'il y a une tension, qu'il y a une distance qui s'installe entre nous. Au même moment, le petit copain avec lequel j'étais depuis 3 ans me largue. Et là, moi, je sombre dans une déprime. Je reste enfermée dans le noir, je dors, je réfléchis, je sais plus ce que je veux faire. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai toujours été vraiment sûre de moi et là, je ne savais plus rien.
À ce moment-là, un petit coup du destin va te remettre sur la bonne voie. Ça commence de façon banale, tu es en train de faire tes courses au supermarché et sur un coup de tête, tu décides d'acheter un Polaroid, un appareil photo Polaroid.
Dans la boîte du Polaroid, il y avait un flyer pour un jeu concours pour pouvoir gagner un voyage à Hollywood ou alors le prix de ce voyage, c'est-à-dire 4 500 €. Et pour pouvoir participer à ce concours, il fallait prendre une photo avec le Polaroid et écrire un poème sur le thème de la photo. Moi, sur le coup, je trouve ça assez attractif, mais bon, j'ai pas d'inspiration, surtout que je suis dans une période où vraiment je manque d'inspiration, j'ai plus envie de rien. Mais je garde ça dans un coin de ma tête.
Là, une copine t'invite à une après-midi fille, et c'est là que tu vas trouver une idée.
Je pars à cet après-midi fille. Là, on s'éclate avec le Polaroid, on prend plein de photos, etc. Et ma copine avait une sorte de véranda avec plein de végétation. Et là, en fait, ça m'a inspirée. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une photo pour expliquer à quel point je me sens perdue, comme dans une jungle, en fait. Et comment je vais trouver un peu la lumière et comment je vais trouver ce que j'ai vraiment envie de faire parce que c'est ce que je cherche depuis des années et je sais pas. Et du coup, je prends cette photo et là, en rentrant chez moi, j'ai écrit mon poème qui n'est absolument pas génial. Donc moi, je me dis, à mon avis, j'étais la seule à participer, c'est absolument pas possible. Enfin, c'est un de mes coups de chance, je crois, dans la vie, parce que quelques mois après, j'apprends que j'ai gagné, quoi. Et là, je me dis, ben, c'est sûrement ça que je dois faire. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je me tourne à nouveau vers ce que j'aimais faire avant, écrire, raconter des histoires, tout ce que j'avais mis en pause, en fait.
Plutôt que le voyage à Hollywood, Angélique choisit d'empocher les 4 500 € du concours pour payer ses études. Elle s'inscrit en fac d'information et communication. Puis elle trouve un travail de chargée de com dans un magazine de jeux vidéo, mais elle rêve d'aller vivre à l'étranger et d'apprendre l'anglais.
En 2006, on me licencie pour des raisons économiques et donc là je me dis, c'est le moment. c'est maintenant ou jamais. Je suis encore jeune, j'ai 22 ans, je n'ai fait que 4 ans d'études, je peux encore, j'ai le temps devant moi. Voilà, j'étais en pleine réflexion là-dessus quand un soir, je sors avec une amie dans un bar à Montparnasse. Et là, dans ce bar, il y avait des étrangers. Je ne comprenais même pas la langue, je ne savais pas d'où ils venaient. Hein. Pour moi, c'était une langue extraterrestre. Déjà, l'anglais, j'étais pas douée, mais alors là, c'était pas de l'anglais. Et du coup, ce soir-là, je me dis, allez, j'étais célibataire, j'avais envie de m'amuser, et je repère un beau garçon dans ce groupe d'étrangers. On papote, on échange, a priori, il a l'air célibataire. On parle en anglais, enfin bon, avec le peu d'anglais que je sais prononcer. Je crois qu'on se comprend pas trop. Mais bon, lui, il avait un petit peu trop bu. Moi, je buvais pas, mais j'étais complètement noyée dans ses beaux yeux bleus. Je comprends rien. Il me raconte ce qu'il fait dans la vie, tout ça. Bon, c'est pas grave, il est sympa. Il a l'air rigolo, je ris à tout ce qu'il dit. Et puis, on décide de quitter le bar. Lui, il avait besoin un peu de, je crois, de décuver. Il me dit, viens, on va marcher à l'extérieur. Et là, on marche peut-être pendant une heure. Il me propose de me raccompagner chez moi, en fait. On marche pendant une heure, on parle. Voilà, du charabia. Et en arrivant devant chez moi, on s'embrasse. C'est un baiser langoureux. Et on se quitte. Et là, je réalise, en fermant la porte de chez moi, que je n'ai pas pris son numéro. L'erreur de ma vie. Par contre, je lui ai donné le mien qu'il a mis dans sa poche sur un petit papier qu'il a plié. Et là, je me suis dit, mais imagine, il le perd. Et en plus, il a bu. Quand il va rentrer à l'hôtel, ça se trouve, il va pas le retrouver. C'est mort. Le lendemain matin, j'étais hyper déçue. Et j'ai attendu son appel. Et à un moment donné, alors à l'époque, c'était des fixes. C'était pas, on avait des portables, mais c'était pas... Voilà, j'avais donné mon numéro de fixe. Normal, quoi. Et mon fixe sonne. Et là, je prie pour pas que ce soit ma grand-mère ou une publicité. Et là, c'était lui, quoi. Et j'entends le mot Tour Eiffel. Je comprends l'heure de rendez-vous. J'ai dit, yes, yes. Et là, on se retrouve au pied de la Tour Eiffel. C'était hyper mignon. Alors, évidemment, j'étais pas encore amoureuse, mais... Voilà, j'étais vraiment sous le charme de ce jeune homme qui me dit qu'il repart, en fait, qu'il habite à Amsterdam, ça j'ai compris, et bah, qu'il repart dans une heure et que c'était un beau moment. On échange les mails cette fois et donc on organise un peu plus tard une rencontre. Cette fois, c'est moi qui vais à sa rencontre, qui prend le bus pour aller à Amsterdam. Là, mes copines me traitent de folle quand même. Tu vas avoir un inconnu, un mec que tu connais à peine, en prenant un car qui met 8 heures pour arriver dans un pays que tu connais pas. Oui, je l'ai fait.
3 mois plus tard, Angélique succombe à cette love story fulgurante et part s'installer à Amsterdam.
J'emménage avec Andreas et là, 5 jours après, je vois une annonce, je cherchais un emploi en parallèle des cours intensifs d'anglais que je prenais. Et je tombe sur une annonce sur le site d'expatriés, en fait, français. Recherchons animatrice télé française pour une émission belge. Je me dis, attends, mais c'est incroyable cette histoire. Pourquoi pas ? Alors, je participe. Et puis, 2 jours après, j'ai rendez-vous pour un casting dans une ville à côté. Je ne la connais même pas. J'ai des amis même qui me conseillent de me méfier, que c'est peut-être, des kidnappeurs de jeunes françaises. Ouais, c'était louche, c'était dans une autre ville qu'Amsterdam, donc de la capitale. Donc c'était à peu près, à 30 minutes de route d'Amsterdam, en plein milieu des champs. Quand j'étais dans ma voiture en train de chercher l'adresse, j'étais paniquée en disant « Mais attends, il m'emmène où ? Au fond des bois, quoi ?» J'avais donné l'adresse à mon compagnon en disant « Bon, si t'as plus de nouvelles, appelle les flics !» En fait, quand j'arrive, c'est un grand bâtiment hyper moderne, tout en verre, une architecture très moderne, contemporaine. Et là, ça fait vraiment studio, quoi. Studio télé, donc je suis quand même un peu rassurée. Il y a une petite blonde néerlandaise qui m'accueille, qui me parle très très vite en anglais, qui m'emmène très rapidement de façon très enjouée, très enthousiaste. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et bam, je me retrouve enfermée dans une petite pièce avec des oreillettes, elle qui me parle, un écran, une espèce de prompteur devant moi. Et tout s'est enchaîné, elle m'a demandé de parler, mais elle comprenait pas le français. Elle parlait même pas français. Je lui dis, mais à quoi ça sert qu'elle me demande de parler si elle comprend même pas ce que je raconte? C'est peut-être pour ça qu'elle m'a choisie, encore une fois. C'est un peu comme le concours d'écriture. J'étais peut-être la seule. En fait, je pense qu'elle voulait voir si j'avais un débit. Elle m'a dit, can you introduce you to the camera? Donc ça, j'ai compris, tu vois, j'en étais à mon troisième cours d'anglais, donc je me suis dit, c'est bon, je comprends, yes! À chaque phrase qu'elle prononçait, je suis là, yes! Et je me suis présentée, ensuite, elle m'a demandé de présenter un jeu. Bon, j'ai fait comme je pouvais, et au bout de 5 minutes, elle est arrivée en trombe dans la salle, elle m'a sauté au cou, et elle m'a dit, congratulations! Et là, elle m'a fait signer plein de contrats avec des sommes faramineuses. Et je suis là, waouh ! Un salaire faramineux pour moi, 300 euros tous les jours, plus les primes de je sais pas combien. J'avais fait mon calcul, j'en étais à 5-6 000 euros par mois, plus le styliste, plus le coiffeur, la maquilleuse, le taxi. Je me suis dit, non mais c'est une blague. Pour moi, c'était assez incroyable. J'ai pas compris ce qui m'arrivait et je commençais la semaine d'après.
Quand tu arrives le premier jour, on t'explique que tu vas devoir présenter un jeu où il n'y a pas de règles et pas de sujets, en fait.
C'est un jeu télé qu'on appelait à l'époque la télé poubelle, parce que c'était l'appel gagnant, ça s'appelait. Donc c'était un jeu télé qui consistait à pousser les gens à appeler pour participer, à faire un max d'appels. Donc c'était vraiment faire monter la sauce, créer un suspense, créer une intrigue, tenir en haleine en fait les spectateurs pendant 2 heures avec aucun sujet, c'est-à-dire aucun contenu.
Mais moi, ça me paraissait incroyable à l'époque, c'est-à-dire que c'est 2 heures d'antenne en direct et concrètement, il y a juste une question hyper simple, c'est ça ?
Par exemple, il fallait trouver le mot fromage.
Qu'est-ce que tu racontes aux gens pendant 2 heures ?
Donc, il y avait toute une stratégie, c'est-à-dire faire croire que tu donnes des super bons indices. Donc, tu vas donner des indices, mais du coup, les gens, ils vont croire qu'ils ont la réponse. Mais en fait, il y a 3 ou 4 réponses possibles. Ensuite, tu prends des personnes en ligne. Donc, tu discutes avec des personnes en direct. Et là, c'est pas ça. Donc, ça rend les autres fous derrière leur téléviseur. Là, tu racontes des anecdotes. Tu fais un peu patienter. Donc, je sais pas si le mot à deviner, c'était le fromage. Je vais parler d'une anecdote de ma vie autour d'une raclette. Évidemment, parler toute seule pendant 2 heures, ça demande énormément d'énergie. J'étais KO. Tu donnes tout, quoi. Tu donnes tout pendant 2 heures. T'as plus de salive. T'as plus de cordes vocales, mais vraiment, hein, parce que des fois, je me mettais à hurler sur le plateau. Et en fait, c'est devenu un jeu en soi de présenter l'émission. Trois ans plus tard, on est en 2009, le jeu s'arrête. Avec Andreas, c'est terminé depuis quelques mois. Mais surtout, Paris me manque. Ma famille me manque, c'était le moment de rentrer. Donc je rentre. Je rentre à Paris, je retrouve mon papa, chez qui je retourne vivre. Donc pour moi, c'est un peu une régression. Sur le moment, je ne le vis pas très très bien. Je me retrouve dans ma chambre de jeune fille, là où j'ai passé le bac, avec mes nounours, mes peluches, mes cours de terminale. Au début, je me dis que c'est transitoire, que je vais retrouver un emploi, c'est forcé. Je parle anglais couramment, ça y est. Je sais présenter des émissions télé, j'ai 3000 heures de direct derrière moi. Pour moi, j'ai un super CV et forcément, je vais trouver un emploi. Sauf que j'arrive en 2009 et c'est la crise économique. Et en fait, je ne retrouve pas d'emploi. Je suis au chômage et je postule à 500 emplois. J'envoie 500 CV. Aucune porte s'ouvre à moi, que ce soit en télé, que ce soit dans la communication, dans la science. J'essaye tout à ce moment-là. Aucune porte, rien du tout. Et pour moi, c'est vraiment déprimant, vraiment difficile à vivre. Je reste au chômage pendant 18 mois. C'est la claque.
La suite dans la deuxième partie de l'épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.